Alors, suite de nos entretiens consacrés à l'élection législative, et j'ai le plaisir maintenant de recevoir Philippe de Vergnette. Philippe de Vergnette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes candidat pour l'UMP sur la deuxième circonscription.
Oui.
Vous êtes président de la Chambre d'agriculture.
Oui.
Vous êtes ou vous avez été président de la SAFER Garonne-Périgord?
Je le suis encore.
Vous l'êtes encore. Votre candidature a fait couler beaucoup d'encre hein, dans le coin, du côté même de l'UMP. Il y avait, comment s'appelle-t-il, Nicolas Pompigne-Moignard qui aurait souhaité être candidat. Et on a même vu le retour, depuis votre candidature, de Jacques Briat, qui lui-même n'est pas content de votre investiture par l'UMP au niveau national. Hein, on va, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai ce que je viens de dire?
Oui, je crois que c'est vrai, oui.
Bon. Alors, c'est aussi la première fois, finalement, que vous vous lancez en politique.
Oui, c'est la première fois, oui.
Puisque...
Effectivement, oui. Avant, j'ai surtout eu des... Je me suis surtout occupé de syndicalisme agricole.
Vous avez été président de la FDSEA de Tarn-et-Garonne?
Oui, de la FDSEA, de la FRSEA aussi.
Ouais.
Enfin bon, du syndicalisme agricole, et puis après... J'ai été élu à la présidence de la Chambre d'agriculture. Donc je me suis surtout occupé de la défense de l'économie du département à travers son agriculture. Voilà.
Et du coup, en tant que syndicaliste, bien souvent, vous avez été en opposition avec les politiques mises en place, bien souvent.
Oui,
même par Nicolas Sarkozy, par l'UMP.
Je ne le cache pas, j'ai été en opposition avec des points qui me paraissaient néfastes à l'agriculture française.
Donc aujourd'hui, il n'y a pas de grand écart, c'est pas difficile.
Je fais d'autant moins le grand écart qu'il y a eu une évolution dans la politique du gouvernement sur l'agriculture. Il y a eu un début qui n'a pas été très bon, et puis après il y a eu une évolution quand même plus favorable parce qu'ils se sont rendus compte, comme devraient le faire les autres, que l'agriculture c'est quand même 12 milliards d'excédents commerciaux, c'est une activité économique énorme et que c'est promis à un grand avenir parce que il n'y a pas que l'alimentaire, il y a le non-alimentaire, il y a pas mal de possibilités qui s'offrent à nous. Je crois que c'est une chance pour la France d'avoir une agriculture performante comme nous l'avons. Et donc c'est une chance qui convient de conserver.
On voit bien que ce sera un thème pour vous fort si vous êtes élu député. Sur cette deuxième circonscription qui est très rurale et très agricole du coup.
Oui, cette circonscription est très rurale et très agricole. C'est pour ça que c'est un thème important, mais il n'y a pas que celui-là. Parce que quand vous avez, par exemple, dans cette circonscription Golfech, aussitôt vous pensez à l'énergie nucléaire et par voie de conséquence au désastreux accord entre les socialistes et les Verts sur cette question-là. Donc il n'y a pas que l'agriculture dans cette circonscription.
Alors, les Verts, ils vous ennuient. Hein. Vous les aimez pas, les écolos, vous. Sur justement, c'est un peu votre vos adversaires plus que les socialistes. J'ai l'impression. C'est
hein. Bon, ce sont les deux, mais les Verts présentent un côté extrême que n'ont pas les socialistes. Un côté extrême qui est contraire aux intérêts de ce pays et même quelquefois contraire à ce qu'ils défendent, en particulier l'environnement. Et en particulier quand on voit ce qu'ils ont, leur programme concernant l'énergie en France, ils ont quand même une manie qui consiste à être contre tout. Alors le nucléaire, on pourrait comprendre, mais aussi contre les énergies renouvelables, contre l'éolien, contre l'hydroélectricité, puisqu'ils sont contre les barrages. Ils ont une manie qui est d'être contre tout, mais en même temps de vouloir se servir de tout, ce qui est assez contradictoire. Ils ne sont pas assez réalistes dans leur conception de l'économie française, parce qu'il y a quand même plus de 60 millions d'êtres humains en France. De Français qu'il faut à la fois nourrir, pour lesquels il faut trouver un travail, et je ne pense pas que la décroissance soit la réponse à ce problème-là.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, Philippe de Vergnette, justement de la recherche dans le milieu agricole, des OGM d'une façon générale, et puis, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup touché dans les dernières années notre département, par exemple.
Il y a quelque chose d'assez étrange, c'est que la recherche, la science, le progrès, qui ont quand même été des thèmes majeurs de ces derniers siècles, tout d'un coup, on se trouve confronté à des peurs qui sont entretenues certes par une mauvaise façon de présenter les choses volontairement, et on est dans le monde de la peur. On a peur de tout, on a peur du progrès, de ce que ça va donner, et pourtant, dans un monde un peu, comment pourrais-je dire, qui a des ressources limitées comme le nôtre, c'est seulement le progrès, l'innovation, le développement qui va permettre de faire vivre, de nourrir et de donner à des milliards d'êtres humains ce à quoi ils peuvent aspirer. Ça ne peut pas être sans le progrès. Or, il y a à la fois chez les Verts, on le sent très fort, on le sent aussi un petit peu sur les socialistes, c'est quand même assez étonnant de la part de gens qui se présentent comme étant les forces de progrès, c'est étonnant ce refus du progrès. Le progrès, il faut qu'il soit maîtrisé, mais le progrès, il s'impose à nous comme une nécessité dans un monde qui a des ressources limitées. Et c'est pour ça que je pense que s'abstenir, se dire en France, on ne fera pas de recherche sur tel ou tel élément, quel qu'il soit, parce qu'on a décidé qu'on ne le ferait pas, je trouve que c'est vraiment dangereux et ça doit faire rire tous les autres pays qui, eux, ne se privent pas de faire de recherche. La recherche, il faut qu'elle soit présente, il faut qu'elle soit publique et privée, et je crois qu'elle est vraiment nécessaire à notre avenir.
Vous n'êtes pas spécialement pour la filière bio. Hein. Vous avez signé il n'y a pas très longtemps un édito dans le journal agricole de la Chambre d'agriculture, dans lequel vous fustigiez un peu une réunion qui s'était déroulée dans les murs du Sénat, et vous disiez au sénateur que c'était quand même pas bien d'avoir laissé des écologistes inconscients faire cette réunion.
Je n'ai rien contre le bio. Il y a même à la Chambre d'agriculture une filière bio. Je pense que c'est très intéressant. C'est une filière comme les autres, et de laquelle on a pas mal de choses à apprendre, parce que ça permet aussi le progrès. Mais ce donc contre quoi je suis fermement opposé, c'est d'en faire une sorte de religion. Ça consisterait à dire, voilà, ça c'est l'agriculture saine, et tout le reste c'est l'agriculture malsaine, en quelque sorte. Or, ce n'est pas le cas. Et si on veut nourrir encore une fois une population qui est en constante augmentation, ça ne pourra se faire qu'avec l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire en utilisant des engrais, des produits de phytosanitaires qui sont ni plus ni moins que des médicaments qu'on utilise pour des animaux ou des plantes, de la façon qu'on soigne les êtres humains, et utiliser l'irrigation et tous les moyens de production qui nous permettront de répondre à cette demande. L'agriculture bio, c'est une agriculture de riches, c'est pour les riches. C'est pas quand vous allez avoir 30% ou 50% de rendement en moins, ça va forcément faire exploser les coûts de l'alimentation. On ne peut pas dire on va nourrir toute la population française avec du bio ou même 20%. Les gens n'ont pas les moyens de s'offrir l'agriculture bio.
Mais à part ça, c'est pas possible d'avoir les mêmes rendements, parce que souvent il y a aujourd'hui des agriculteurs en bio qui disent ah ben j'arrive moi aujourd'hui à avoir les mêmes rendements.
Oui, d'accord. En 2007, je vous donne un seul exemple. En 2007, sans traiter, il n'y aurait pas eu une seule pomme de terre. Il y avait le milieu de la pomme de terre, il n'y aurait pas eu une seule pomme de terre. Et je vais vous citer encore un autre exemple. La dernière grande famine en Europe, c'est en Irlande, dans les années 1845 ou 7, je crois. Il y a eu 1 million de morts et 2 millions d'expatriés vers les États-Unis parce qu'ils avaient le milieu dans les pommes de terre 2 années de suite et qu'ils n'ont forcément pas mangé à leur faim. Par contre, ils sont morts en mangeant bio, c'est la seule chose qui est de positive dans cette affaire, mais ça, ils ne le savaient même pas.
Bon, et les produits phytosanitaires qui seraient à l'origine, et j'arrête là-dessus, oui. du déclin des abeilles, par exemple, on en parle aussi beaucoup ici.
Alors, sur les abeilles, c'est très complexe, parce qu'il y a beaucoup de contradictions dans les différentes recherches scientifiques qui ont été faites. Mais je crois que les produits phytosanitaires sont comme les médicaments. Les médicaments d'il y a 30 ans ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Les produits phytosanitaires ont la même évolution, c'est-à-dire qu'on en emploie moins, on les emploie mieux, et ce sont des produits avec des effets secondaires, ou pas des effets secondaires, des résidus qui disparaissent beaucoup plus facilement. Là aussi, le progrès a permis d'avancer dans cette direction, mais on ne peut pas s'empêcher, on a besoin à des moments donnés de traiter les plantes, parce que sinon on ne pourra pas nourrir la population. C'est aussi simple que ça.
Il y a de gros chantiers dans le département, notamment la ligne à grande vitesse, sur laquelle forcément vous avez travaillé en tant que président de la SAFER, président de la Chambre d'agriculture. C'est pour vous un projet incontournable, important?
Je pense que je vais peut-être vous décevoir, parce que je vais dire exactement le contraire. La ligne LGV, elle concerne 1/10, ça c'est les chiffres de la SNCF, 1/10 des usagers prennent le TGV. La question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'on doit dépenser 8 milliards d'euros pour gagner 20 minutes entre Bordeaux et Toulouse pour 1/10 des usagers? Est-ce qu'il ne conviendrait pas mieux, pour 4 fois moins cher, de restaurer correctement la ligne existante, de façon à assurer davantage de liaisons, davantage de régularité, parce que beaucoup de gens, et de plus en plus, prendront le train pour aller travailler ou pour aller étudier à Toulouse ou ailleurs, parce que le pétrole augmente, et je crois que la nécessité, avant même une liaison à grande vitesse qui concerne que peu d'usagers, la nécessité, c'est d'avoir des liaisons régionales qui marchent beaucoup mieux qu'est-ce qu'elles marchent maintenant. C'est là-dedans qu'il faut investir, parce que je pense que c'est nécessaire. Et d'autre part, la consommation de l'espace rural dont on parle tant, eh bien, si on veut l'arrêter un jour, il va pas falloir faire des infrastructures dont on a peut-être pas besoin. Je pense que l'Europe est assez pourvue en grandes infrastructures et que c'est beaucoup plus intéressant de restaurer et de rendre l'existant beaucoup plus efficace.
Philippe de Verniette, pour finir, si vous êtes élu demain député de la deuxième circonscription, quel sera votre rôle et comment vous l'entreprendrez?
Si je suis élu, je défendrai ce à quoi je crois et ce que je pense qui est bon pour notre département et également aussi pour notre pays, c'est à ce à quoi je m'attellerai. J'ai pas mal d'idées sur différents sujets. Je pense par exemple que, je vous donne qu'un exemple si j'ai le temps. Je pense qu'en matière alimentaire, il serait bien intéressant de rentrer vraiment dans un encadrement des marges pour les produits de première nécessité, parce que les agriculteurs produisent très souvent à des prix qui sont très bas et les consommateurs payent très cher. Il y a quasiment aucun rapport, il y a plus de rapport entre le prix à la production et le prix à la consommation. On n'arrive plus à faire un équilibre dans les relations entre le producteur et la grande distribution. Je crois qu'il faut l'imposer. 60 millions de consommateurs, j'ai vu aussi, étaient d'accord pour ça. Je crois qu'il faut arriver à imposer pour les produits de première nécessité un encadrement des marges afin que les consommateurs ne payent pas trop cher ce que nous vendons, somme toute, quelquefois pas assez cher.
Philippe de Verniette, je vous remercie. Je rappelle donc que vous êtes candidat pour l'UMP sur la seconde circonscription et votre suppléant s'appelle
Nadège Girardin.
Merci à vous.
Elle est professeure au CFA à Montauban.
Merci à vous.